Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au début du XXe siècle, les pôles étaient le graal à atteindre pour de nombreux explorateurs lancés dans une compétition acharnée. L'histoire a retenu que Robert Peary avait été le premier homme en 1909 à planter le drapeau américain au pôle Nord géographique. Pourtant, à ses côtés, quatre Inuits et Matthew Henson, un Afro-Américain qui fut de toutes les expéditions de Peary, ont longtemps été oubliés du récit officiel. Science Chrono se penche aujourd'hui sur cette page, pas si blanche que ça, de l'aventure polaire. Kamel Boukir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, préfacier et traducteur du journal de l'explorateur Matthew Henson, intitulé « Journal d'un explorateur noir au pôle Nord » paru aux éditions Zone Sensible. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans Science Chrono. On poursuit avec vous notre voyage hebdomadaire dans les archives de l'histoire des sciences, dont fait partie bien sûr cette histoire de l'exploration polaire. Les pôles au tournant du XXe siècle étaient, comme on va le voir, à la croisée d'enjeux non seulement scientifiques, mais aussi géopolitiques et symboliques. C'est à l'histoire de la conquête du pôle Nord que nous allons consacrer notre discussion et aux façons dont le récit officiel a oublié certains des principaux artisans de cette conquête. Au premier rang de ces artisans figure cet explorateur afro-américain Matthew Henson. Écoutez justement cette archive, ce sont les mots de Matthew Henson lus par Laurent Blanpin. Il s'agit d'un extrait de son journal, Journal d'un explorateur noir au pôle Nord. On était le 6 avril 1909, le jour où le pôle Nord géographique fut enfin atteint.
Les étoiles et les bandes étaient clouées au pôle. Un élan de patriotisme me traversa. J'élevais ma voix pour acclamer l'emblème étoilé de ma terre native. Sur la mesure du commandant, les Esquimaux l'entourèrent, devant des chiens décontenancés, pour entonner trois chaleureuses acclamations dans l'air glacial et immobile. Ce fin drapeau de soie que le commandant Peary avait transporté dans tous ses voyages arctiques flottait toujours sur le dernier camp. Glorieux et exaltant comme un étendard maculé de sang, il était comme labouré des cicatrices de la bataille. Des petites portions carrées de tissu manquaient. Elles avaient été à chaque fois déposées dans les cairns, aux côtés des comptes rendus dans le but de marquer nos passages les plus septentrionaux, tels d'éloquents témoins silencieux de nos triomphes. Au pôle Nord, une bande diagonale qui courait depuis le coin supérieur gauche au coin inférieur droit du drapeau fut découpée, puis déposée avec un bref compte-rendu dans une boîte de conserve vide que nous scellâmes avant de l'enterrer dans la glace comme une mémoire éternelle. Sentant que le temps était venu, je me dégantais et allais à la rencontre du commandant pour congratuler nos 18 années d'efforts. Mais une rafale de vent souffla quelque chose dans son œil. Ou est-ce encore la douleur brûlante causée par le regard prolongé de la réflexion des rebords du soleil qui l'obligea à me tourner le dos? Le commandant avait donné sa parole. Nous planterons les étoiles et les bandes au pôle Nord. Ce qu'il fit. Sur le pic d'un énorme flauberg paléocristique, la glorieuse bannière déferlait dans la brise. Et tandis qu'elle claquait au vent, je sentis une joie mêlée à une exultation sauvage m'envahir. Un autre accomplissement mondial était clos. Comme par le passé, et ce depuis le commencement de l'histoire, à chaque fois qu'il fut réalisé par un homme blanc, un homme de couleur l'accompagnait. Depuis la construction des pyramides jusqu'au chemin de croix, en passant par la découverte du Nouveau Monde et celle du pôle Nord, le noir fut le fidèle et constant compagnon du caucasien. Et autant que je puisse le ressentir, je vécus tout entier ce moment comme l'élection d'un humble membre de ma race destiné à la représenter dans l'un des derniers grands ouvrages de ce monde.
Voilà les mots de Matthew Henson lus par Laurent Blanpin. Kamel Boukir, il y a beaucoup de choses à lire entre les lignes de ce récit fait par Matthew Henson et on va s'y employer tout au long de notre discussion aujourd'hui dans Science Chrono. Mais avant ça, j'ai une question toute simple à vous poser. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de cette histoire de Matthew Henson, un homme noir qui a conquis le pôle Nord avec Robert Peary, mais qui a longtemps été oublié?
C'est une époque à laquelle, durant laquelle je lisais énormément de récits d'exploration pour être un tout petit peu alpiniste et faire de l'escalade. Si bien qu'à force de lecture, aussi bien d'expéditions montagnardes que polaires, je me suis avisé en lisant l'intégralité des journaux de Peary qu'en fait figurait un noir dans toutes ces expéditions. Et sachant par ailleurs le contexte sociopolitique et historique de l'époque, donc la charnière entre le 19e et le 20e siècle, je me suis avisé du caractère très exceptionnel de la possibilité qu'un noir puisse à cette époque-là fréquenter les milieux blancs, polaires et d'explorateurs.
Matthew Henson, il incarne cette transition-là d'une certaine façon dans son histoire personnelle, la transition entre la fin de l'esclavage, le début de la ségrégation aux États-Unis. Quelle est son histoire personnelle et comment cet homme noir finit par se retrouver à parcourir le monde à bord de bateaux?
Effectivement, en lui viennent quasiment se précipiter tous les fils historiques qui vont donner naissance à la modernité américaine, puisqu'il naît au lendemain de l'abolition de l'esclavage, qui est signé par la proclamation du 13e amendement, donc autour de 1865. Il naît en 66. Et en fait, c'est en même temps, dès lors que l'abolition de l'esclavage acte la fin d'une ère, elle précipite immédiatement quasiment l'horizon de la guerre civile, de la guerre de sécession, et qui va ensuite donner naissance à l'ère Jim Crow, l'ère ségrégationniste. Effectivement, en sa biographie, viennent se réfracter des changements socio-historiques. Et donc, ce que j'ai essayé de faire modestement, en fait, dans la préface, c'est d'essayer de rendre cette vie comptable de toutes les transformations historiques qui ont rendu possible qu'un noir, orphelin, vivant dans une plantation de tabac, métayer, puisse devenir un explorateur au tournant du siècle. En fait, l'histoire s'est construite autour de récits un peu canonisés qui a omis et les Inuits et les Noirs. Et en gros, tout mon travail, ça a été de rendre ces expéditions à leur nature collective, où on va rencontrer plein de personnages, des gens qui vont les financer, des philanthropes, des explorateurs, les hommes politiques, Roosevelt, les scientifiques, etc.
Alors Matthew Henson, vous l'évoquez, le fait qu'il soit devenu orphelin à 10 ans, un enfant noir orphelin de 10 ans à la fin du 19e siècle aux États-Unis, on a du mal à comprendre comment il peut se retrouver embarqué sur des bateaux à explorer le monde, à parcourir le monde. Est-ce que c'était aussi facile que ça? Comment est-ce qu'il a pu obtenir ce statut de compagnon de Robert Peary dans toutes ses expéditions?
On l'oublie trop souvent, à la fois parce que la période est loin, mais aussi parce que l'histoire américaine nous est pas complètement légué ni à l'école ni dans les récits familiaux, si bien qu'on oublie que le Maryland est un état frontalier qui fait partie de l'un des états qui fera pas sécession à l'Union, mais qui conserve néanmoins une législation esclavagiste, mais avec cette clause exorbitante que le Maryland était aussi un état qui accueillait énormément de Quakers, qui est une petite population chrétienne schismatique, qui avait pour l'un des principes fondateurs de cette communauté religieuse était l'égalité entre les hommes et les femmes et les différentes races. Si bien qu'ils avaient, dès le XVIIe siècle, coutume d'émanciper les Noirs. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que le Maryland est un état, du coup, frontalier qui est niché au sein de la baie de Chesapeake. Et en fait, c'était l'un des hauts lieux de ce qu'on a appelé l'Underground Railroad, qui était une des modalités de fuite des Noirs des États du Sud pour rejoindre le Nord et éventuellement, dans le meilleur des cas, le Canada. Si bien qu'en fait, tout au bord de cette baie, qui est immense, plusieurs communautés noires avaient pour habitude d'y installer. Certains devenaient pêcheurs, d'autres marins. Et en fait, il y a une culture de la navigation, même au long cours, qui avait lieu au tournant du 19e et du 20e siècle. Et en fait, Matthew Henson, dans les récits narrés par les gens de sa contrée, a fini par avoir le goût du large et donc d'abord se rendre dans la ville où venait plonger l'imagination des Libronais et des anciens esclaves pour pouvoir fuir les plantations. Et donc, les gens avaient l'habitude de se rendre dans les villes, ici Baltimore en l'occurrence, pour essayer d'imaginer une vie meilleure ailleurs.
C'est là qu'à 12 ans, Matthew Henson devient garçon de cabine et embarque dans la marine marchande. Il reçoit une instruction à bord d'un de ses bateaux de la part d'un capitaine blanc qui s'appelait le capitaine Childs sur le navire Katie Hines. Le capitaine Childs a fini par mourir. Henson est revenu à terre, a fait plein de petits boulots, s'est installé à Washington, a travaillé dans un magasin de chapeaux et là a rencontré ce fameux Robert Peary qui sera finalement son compagnon dans une sorte de compagnonnage étrange entre un homme blanc issu du génie civil de la marine américaine et cet homme noir qui a parcouru le monde et qui s'est retrouvé un petit peu là, dans ce magasin de chapeaux, par hasard confronté nez à nez avec Robert Perry, qui deviendra finalement son, pas son mentor, mais la personne qui va suivre en tout cas dans ses expéditions.
Alors effectivement, c'est à l'occasion d'une rencontre dans ce magasin de chapeaux que Hanson va être embauché par Perry en qualité de servant pour s'occuper de l'entretien du camp, des tâches essentiellement logistiques, dans l'optique à l'époque de construire un canal au Nicaragua pour concurrencer celui du Panama. Et en fait, le géomètre qui était prévu pour effectuer les calculs et les relevés va succomber à une maladie. C'est Hanson qui va prendre le relais et sachant faire ses calculs, grâce au capitaine Cheese qui l'avait initié à toutes ces aux rudiments de la géographie, de la navigation, etc. Ça va être l'amorce d'une relation à la fois de confiance, disons
de hiérarchie aussi,
de hiérarchie inévitablement parce que Perry reste militaire malgré tout, de défiance aussi, de concurrence un petit peu. L'une des questions à laquelle j'ai essayé de répondre, c'est est-ce que de la même manière qu'on a exilé du réel ces Noirs et ces Inuits, est-ce que en ce contexte-là, le contexte social et politique ne rend pas une amitié interraciale impossible ? Et donc voilà, c'est des relations qui sont ambivalentes et ce contexte est aussi, je trouve, beau parce qu'il permet de commencer d'initier à l'horizon de ce que va devenir le XXe siècle, des possibilités qui n'existaient pas. Une amitié entre un noir et un blanc, des intermariages, etc. Pour en reparler, mais c'est l'amorce d'horizons de possibles qui se trament, s'amorcent, et qui sont pas encore tout à fait possibles. Donc on les voit même tâtonner à une époque où les structures sociales sont en train de rendre possible ce qui n'était pas.
Ça transparaît dans la préface que fait Robert Perry du journal de Matthew Hanson, où finalement il semble dire qu'il n'y a pas de race qui existe, il y a que des gens intelligents, et puis on s'en fout de la couleur de la peau. C'est ce qu'il dit à demi-mot. Bon, on verra que l'histoire est plus complexe aussi, parce qu'il a eu beau jeu de dire ça, et d'exiler aussi d'une certaine façon Matthew Hanson de sa propre histoire à lui, et de son propre triomphe à lui. Mais moi, vous parliez du contexte. Alors, le contexte social, politique, on l'a évoqué aux États-Unis. On n'aurait pas assez de plusieurs heures de discussion pour vraiment le creuser, mais parlons du contexte de pensée et du contexte scientifique dans lequel s'inscrit cette exploration du pôle Nord, puisque c'est de ça qu'il s'agit. À cette époque-là, début du XXe siècle, la course est à la clôture du monde. On veut clore les limites du monde géographiquement, et c'est en ça que les pôles incarnent finalement le dernier bastion non encore foulé par les humains.
Alors effectivement, on fantasme la clôture du savoir immédiatement repliée quasiment sur les plis géographiques terrestres, où on s'imagine qu'en arpentant réellement les dernières contrées, on aura enfin atteint
une connaissance parfaite et close.
Close à la manière d'une encyclopédie, comme si on pouvait lister l'intégralité des savoirs. L'histoire des pôles rencontre ici l'histoire géographique, géodésique, anthropologique, et même, je ne sais pas si nous aurons le temps d'en parler, mais même la théorie de l'évolution. Mais en tout cas, d'emblée se joue, vous l'avez dit, les explorateurs à cette époque-là sont littéralement investis par la nation, ce que nous on oublie, parce qu'aujourd'hui on considère essentiellement les explorateurs, enfin ceux qui explorent comme des sportifs. Alors qu'à l'époque, ils sont investis par toute la nation, Roosevelt compris, qui est souvent le préfacier de quasiment tous les journaux de Perry, sont investis de la nation de venir mettre le dernier pied sur la plus haute marche du monde. Alors c'est investi aussi par une sorte d'imaginaire instituant, dont on parlera peut-être aussi, qui est l'Ultima Thule, cette dernière station ultime où les êtres humains ont installé une forme de vie précaire. Et donc voilà, les explorations sont un mi-chemin entre un imaginaire instituant géographique, où la découverte ne peut être actée qu'à condition d'avoir arpenté de ses pieds, et ce qui est d'une ironie assez mordante concernant le pôle Nord, parce que aussitôt que le cairn a été déposé, le continent étant une calotte glaciaire flottante, il a immédiatement été déporté quelque part.
Vous parliez de ce contexte de clôture des savoirs qui est finalement un fantasme aussi avec le fait de conquérir le pôle Nord. Qu'est-ce qui fait que en 1909, on peut plus l'atteindre que dans les millénaires passés? Et pourquoi est-ce que l'humanité se dit tout d'un coup, on va aller là où finalement on ne pensait même pas aller? Le pôle Nord, c'était un peu l'équivalent de la Lune jusqu'au 19e siècle.
Oui, effectivement. Alors ça se double d'une ironie, on va dire, indigène. Parce que aussitôt qu'ils ont mis le pied au pôle Nord, donc je vais donner le nom des Inuits, pour ne pas qu'on les oublie nous à notre tour. Donc c'est il y a Matthew Hanson, Robert Peary, Uta, Ukea, Egingwa et Siglu. Mais aussitôt qu'ils y arrivent, en fait, ils se demandent pourquoi ils sont arrivés là. Parce que la contrée est immaculée, blanche, désolée. Et eux, ils n'ont qu'une hantise, c'est d'avoir à traverser ce qu'ils appellent le Grand Lead. Et c'est cette limite au niveau de la banquise qui, moyennant le dégel et le degré de salinité, crée une sorte de grand couloir qui précipite tous les explorateurs qui veulent traverser. Donc ce que nous, on n'imagine pas, c'est que moi, avant de découvrir cette histoire, on s'imagine une sorte de glace plate. Il y a des chaos d'amoncellement de roches, c'est éprouvant. La glace, parfois, s'amenuise et donc vient comme...
Meuble, elle devient
complètement ondulatoire, on la sent craquer sous les pieds. Et en fait, les Inuits n'ont qu'une hantise, c'est de mourir pour si peu. Et ce qui a fait dire à Karl Kraus que la seule chose qui avait conquis le pôle en 1909, c'était la sottise, et que son drapeau flottait admirablement dans le ciel.
France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Le drapeau de la sottise flottait peut-être dans le ciel de ce pôle Nord, Kamel Boukir, mais peut-être qu'on peut quand même évoquer les enjeux scientifiques, stratégiques à conquérir et à en tout cas explorer ce pôle Nord géographique en 1909. Quels étaient ces enjeux-là concrets et pourquoi est-ce que les savants, qui eux restaient bien au chaud dans leur laboratoire, faisaient des explorateurs finalement leur bras armé dans le cadre de ces explorations-là?
Oui, pardon, j'en oubliais l'essentiel. Alors, je vais revenir à votre question, mais pourquoi je disais sottise? Parce que derrière Karl Kraus s'amorce déjà une inquiétude écologique dont on parlera peut-être à la fin, mais qui permet de mieux comprendre qu'on est vraiment à la croisée des chemins entre plusieurs sciences qui n'étaient pas désintriquées les unes des autres à cette époque-là, aussi bien le savoir anthropologique, qui est aussi bien une anthropologie sociale que biologique, je le dis, un savoir géographique, mais aussi géodésique, science de la vie et de la terre. Et donc, vous l'avez suggéré, on est essentiellement dans une science de cabinet, avec aussi des naturalistes qui ont besoin de personnes qui vont explorer pour eux et leur amener aussi bien des mesures, des relevés, qu'éventuellement des spécimens. Et donc, c'est des entreprises collectives qui coûtent éminemment cher. Donc, un peu dans le sillage de ces anciennes expéditions durant tout le Moyen-Âge, on a besoin d'un armateur, on a besoin de gens qui financent, souvent des grands philanthropes, des sociétés philanthropiques de Boston, de New York. On a besoin d'explorateurs, de navigateurs, de toute une logistique, de pêcheurs. Parce qu'il faut s'imaginer que, une fois qu'on est au pôle, il faut... pendant tout l'hiver.
Survivre.
Et voilà, il faut survivre. Donc, on décime des troupeaux entiers, etc. Enfin, bon, bref. Donc, il y a besoin de chasseurs. Et donc, il y a une multitude de professions qui viennent ici rendre possible ces expéditions qui ont aussi, effectivement, un angle et une perspective scientifique qu'on peut éventuellement détailler.
Hanson, où est-ce qu'il se situe dans cette expédition-là et dans cette exploration-là? Et quel savoir il apporte aussi à Robert Peary, parce que c'est un homme clé dans cette exploration et dans ce contact avec les populations.
Oui, il fait partie de ce que la littérature anthropologique appelle des auxiliaires de recherche. Et en fait, c'était des personnes pivots, en ce sens qu'à l'époque, certaines langues sont difficiles d'accès. Donc, par exemple, Franz Boas, qui est le directeur du musée d'histoire naturelle, qui va demander à ces deux explorateurs de lui ramener des spécimens, parle des langues apparentées, mais des langues indiennes qui permettent pas la communication avec les Inuits du Groenland. Et en fait, c'est à l'épreuve de l'impossibilité de rentrer aux États-Unis pour participer au gala, pour lever des fonds avec Peary, que Hanson va finir par rester au Groenland à peu près deux décennies, quasiment 25 ans, qui va y fonder une famille. Et chose extraordinaire pour l'époque, va parler leur langue.
Donc c'est une forme d'observation participante telle qu'on l'appellerait aujourd'hui, ou en tout cas une ethnographie en immersion.
Quasiment mieux que ça, effectivement c'est une sorte de proto-ethnographie en immersion longue, où il va quasiment élaborer 25 ans avant Bronislaw Malinowski, qui est un peu la grande figure de ce qu'on appellera ensuite l'observation participante, qui est le fait de plus envisager les personnes étudiées comme des objets, mais comme des sujets. Et donc, Hanson se trouve être le vecteur d'une nouvelle forme de relation éthique qui permet d'introduire un savoir qui restitue la perspective de ceux qui sont concernés par l'observation, en l'occurrence les Inuits.
Si on en revient, Kamel Boukir, au dur de cette expédition et bien sûr au fait que Robert Peary a proclamé « I have the pole », j'ai le pôle et je suis le seul finalement vainqueur de ce pôle-là, on l'a compris. Hanson était lui aussi présent et peut-être même présent avant, peut-être qu'on l'entend dire, Hanson était peut-être là 45 minutes avant au pôle, avant Robert Peary. Est-ce que ça, aujourd'hui, on a pu trancher? Et moi, la question qui m'obsède, en fait, dans toute cette histoire-là, c'est comment est-ce que Hanson disparaît de la photo, disparaît de cette histoire-là de la conquête du pôle?
La première chose que vous évoquez, c'est cette obsession, presque cette ivresse des pôles. Je l'avais suggéré, il y a à la fois la nation qui est investie, mais aussi l'histoire des explorations qui viennent se précipiter là. Ça fait 2-3 siècles qu'on essaie de trouver un passage au nord-ouest, dont l'un des tout précédents explorateurs s'appelle Elisha Kane Kent, et qui, lui, était beaucoup plus envoyé par un autre chercheur, Agassiz, qui était un zoologue, et qui a établi une théorie des glaciers sur laquelle on reviendra peut-être brièvement, parce qu'elle est liée aux théories raciales. Mais lorsque Peary a cette obsession d'être le premier avant les Inuits et avant Hanson, avec même, pour certains historiens, une sorte de cynisme dans le choix...
Il établit une sorte de stratégie pour finir le dernier à emboîter le pas de ceux qui lui ont ouvert la route.
Il sait très bien, pour lui-même l'avoir expérimenté les années précédentes, c'est qu'il a donné son nom, a donné lieu à une espèce de daim, qu'on appelle l'espèce de Peary. Il a aussi donné lieu à une contrée, quasiment la bordure, le dernier pli terrestre avant le continent glacial arctique, à une terre qu'on nomme la terre de Peary. Et donc il sait très bien qu'il existe une coutume d'attribution du nom, et en fait il est complètement obnubilé par l'idée de rester, pour le reste des temps, dans les annales géographiques. Et donc, bon, voilà, lui, il est animé par cette passion dévorante, il est aussi issu d'un milieu assez modeste. Donc il va mettre en place une stratégie, bon, très maligne, parce que d'abord, ça va être l'un des premiers à mettre en place cette idée qui nous paraît complètement coulée sous le bon sens, mais qui est complètement révolutionnaire pour l'époque, c'est-à-dire de s'habiller comme des Inuits. À la même époque, en voyant que Peary fonce vers le pôle Nord, il y en a un autre qui fonce au pôle Sud, et ils sont habillés de vêtements de feutre. Ils ont des ânes plutôt que des chiens de traîneau.
Et ils meurent.
Et ils meurent, évidemment. Donc il a donc d'abord cette stratégie de bon sens, c'est de se nourrir du régime alimentaire inuit, de se vêtir comme eux et d'utiliser leurs moyens de locomotion. C'est à cet égard que Hanson devient une pièce maîtresse, quasiment la cheville ouvrière, parce que à force de rester sur place, je vous ai dit, 2 décennies, ils parlent non seulement leur langue, mais c'est l'un des meilleurs constructeurs de chiens de traîneau. Et donc, il va devenir très habile dans le maniement des traîneaux. C'est lui qui va les réparer. Donc, on s'imagine pas le type de logistique qu'il faut, hein. Mais par moins 50...
Tirer 250 kilos de matériel avec un traîneau.
Ou alors devoir réparer en soudant alors qu'il fait moins 50 dehors et retirer des moufles. La chose devient très compliquée tout de suite. Ça va être un expert en construction de traîneaux d'attelage et aussi un maître expert dans l'attelage.
Peary immédiatement est salué par le Congrès, reçoit les plus hautes distinctions. Hanson, lui, disparaît progressivement de cette histoire-là. Qu'est-ce qui fait qu'on va réhabiliter Matthew Hanson et comment est-ce qu'il va revenir progressivement dans cette histoire de la conquête du pôle Nord?
Alors, il est réhabilité quasiment dans l'immédiat, en fait, par des membres du club Peary Arctique, en fait, qui est le club où tous les explorateurs viennent un peu se réunir. C'est aussi la fin des époques des sociétés savantes. Il y a quelques personnes qui se prennent d'amitié pour Hanson. Il va être comme ça, par jalon, recevoir des petites distinctions, des signes de reconnaissance. L'un des grands jalons, c'est il est reçu en 49, je crois, par Eisenhower. Et ça mettra quasiment un siècle à ce qu'ils reçoivent la distinction suprême de la National Geographic Society, qui est la médaille Hubbard, qu'avait reçue Perry en 1909, si je ne me trompe pas.
1900, quasiment immédiatement après son retour.
1911,
voilà. 1911. Et Matthew Henson, lui, la reçoit en 1998, voilà. à titre posthume. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ce journal de Matthew Henson, paru en 1912, c'est un journal qui était potentiellement soumis à la censure. Donc on sent qu'il y a des choses qu'il écrit entre les lignes, des critiques qu'il émet, qui sont très très subtiles et qui sont très lointaines. On n'a pas accès directement à sa pensée profonde. Et ça, c'est un des aspects intéressants de cet objet historique. Kamel Boukir, pour conclure, est-ce que finalement l'histoire des sciences, l'histoire de l'exploration aujourd'hui, c'est pas une histoire de la réhabilitation permanente de ces personnes qui sont restées dans l'ombre ?
Oui, vous avez raison, on peut même aller plus loin, c'est souvent à la fois la réhabilitation mais la redécouverte de controverses qu'on croit nouvelles et qui ont déjà quasiment eu lieu parfois un siècle auparavant. Et effectivement, la controverse entre par exemple Washington et Du Bois se rejoue actuellement dans les théories postcolonial, et il me semble que l'histoire qu'incarne Henson permet de rebattre les cartes en recomplexifiant un peu les données.
Merci beaucoup en tout cas Kamel Boukir. Je rappelle que vous avez traduit et préfacé le journal d'un explorateur noir au pôle Nord de Matthew Henson aux très belles éditions Zone Sensible, édition dont on salue le travail acharné d'une immense qualité. Rassurez-moi, vous allez donner une suite à ce travail.
J'aimerais bien, et le titre serait « Noir boréal, quand les auxiliaires de recherche inventaient l'ethnographie ».
Bon, écoutez, on va attendre avec impatience cette publication-là. Norse par Phoenix pour laisser nos boussoles nous guider encore un peu plus au nord. Science Chrono, c'est déjà fini. Un grand merci pour leur aide dans la préparation de cette émission à Mariam Ibrahim et à la réalisation Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours et en tout lieu sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.